La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est bien sur ce thème de la foi que les différentes lectures de ce jour orientent notre méditation. Dans la lettre aux Hébreux que nous venons de lire, la deuxième lecture, il y a eu tout un mémorial de ceux qui nous ont précédés et qui avaient pris au sérieux la foi en Dieu. Bien sûr, Abraham obéit à l'appel de Dieu, et puis Isaac, et puis Jacob, et puis Sarah. Chacun avait eu un appel du Seigneur et avait répondu. La première chose dont on peut faire mémoire, c'est que si nous sommes, nous, dans une attitude de foi, et nous y sommes, si nous sommes ici, nous sommes en chemin, c'est que d'autres nous ont précédés. Et ça peut être intéressant de faire mémoire de ceux qui nous ont précédés, particulièrement de ceux qui nous ont précédés dans le royaume, les défunts de nos familles, et grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui dans un chemin spirituel. La foi, c'est posséder ce que l'on espère. C'est-à-dire, c'est ça qui nous met en route. C'est ça qui nous fait passer, et c'est le sens de la première lecture, de l'esclavage à la liberté. La nuit de la délivrance pascale, c'est le livre de la sagesse qui le dit, notre première lecture avait été connue d'avance par nos pères, ils étaient dans la joie. Oui, parce que rentrer dans une dimension de foi, dans une attitude de foi, c'est passer du connu à l'inconnu. C'est rentrer dans une forme de lâcher prise, comme un peu le peuple hébreu qui a été invité à traverser la mer Rouge, à quitter l'Égypte, qui représentait une certaine sécurité, et on le verra dans toute la démarche du peuple hébreu, parfois eux-mêmes regretteront les différents biens qu'ils pouvaient avoir, l'eau, les oignons, les viandes, etc., qu'ils pouvaient avoir en Égypte, malgré l'esclavage. Mais passer de l'esclavage à la liberté, c'est passer du connu à l'inconnu, c'est passer de la mort à la vie. Au fond, la foi, c'est ça, c'est cette invitation à rentrer dans la confiance. Et de fait, confiance et foi, c'est exactement, c'est pratiquement synonyme, c'est la même racine en latin. De même, c'est la même racine que fidélité. Et c'est intéressant de dire, tiens, où est-ce que nous en sommes nous-mêmes dans ce chemin de foi, dans ce chemin de confiance qui fait que nous voyons le temps comme différent des autres. C'est ce que nous dit Jésus, hein. Si vous saviez à quelle heure le maître de maison, s'il savait à quelle heure le voleur allait percer le mur de sa maison, il ne l'aurait pas laissé faire. De même, vous ne savez ni le jour ni l'heure, eh bien, est-ce que vous êtes dans une dimension d'attente? Parce qu'au fond, c'est ça, hein, c'est le rapport au temps que l'on a est différent quand on est croyant ou quand on n'est pas croyant. Il passe de façon habituelle pour chacun, ça c'est sûr. Vous savez qu'il y a deux manières de dire le temps en grec. Hein, il y a le chronos, un chronomètre, c'est-à-dire le temps de la montre. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais ensuite, il y a le kairos, il y a le temps de la grâce. Il y a le temps de la grâce, c'est-à-dire le temps où la vie éternelle fait irruption dans notre monde. Là où le temps où le royaume des cieux fait irruption dans notre monde. Et c'est très beau de voir Jésus qui commence cette parabole, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quand on va le chanter tout à l'heure au Sanctus, « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », c'est que nous découvrons ici-bas déjà une anticipation de l'éternité. C'est ça la foi, c'est posséder ce que l'on espère. C'est rentrer dans une, au fond, dans une manière de vivre événement et personne qui est différente des autres. C'est qu'on découvre que nos actes retentissent dans l'éternité. Il y a une connexion entre la vie éternelle, le royaume de Dieu, et ce royaume ici-bas où le Seigneur se rend présent, mais auquel nous avons accès dans la foi parce que ce n'est pas évidemment quelque chose que nous pouvons voir. La foi, c'est donner accès à l'invisible. Et vous voyez, donc, il y a la manière de voir le temps. La manière de voir le temps, elle est différente. Quand on est disciple de Jésus, alors pas le chronos, mais le kairos, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il y a un lien entre entre la vie éternelle et ce monde-ci. Mes actes retentissent dans l'éternité. Et donc, ça veut dire aussi que notre temps est un temps fléché. Il y a une sorte d'urgence. Oui, une sorte intéressante, c'est il y a une urgence. Oui, c'est très différent, par exemple, des traditions asiatiques. Les traditions asiatiques, c'est un temps qui est circulaire. Vous savez que dans les traditions asiatiques, il y a cette dimension de réincarnation. Ce n'est pas notre foi. Elle est respectable, chaque tradition religieuse est respectable, mais ce n'est pas notre foi. Nous, c'est un temps fléché, parce que nous croyons en la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a une urgence. Nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. Que cette vie pour vivre de foi, que cette vie pour nous préparer à l'au-delà. Et le Seigneur le dit bien dans la parabole. Voilà, si vous profitez de ce temps-là pour commencer à boire, manger, vous enivrer, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Voilà, c'est là, donc garder cette dimension d'un temps, d'une urgence, c'est tout le défi de notre vie. Parce qu'on peut s'habituer, et puis ce que nous donne le monde est aussi, somme toute, assez agréable. Et puis beaucoup de gens, on voit bien, le dimanche matin, lavent leur voiture, font un certain nombre d'activités, etc. Restent tout simplement dans leur lit, parce que au fond, la vie éternelle semble ne pas les concerner, alors qu'eux aussi auront à rendre des comptes. Vous voyez ? Et c'est là où c'est beau de dire que si nous sommes ici, c'est que d'une certaine manière, la vie éternelle nous a convoqués. La vie éternelle nous a convoqués. Le royaume de Dieu nous a convoqués, si nous sommes ici, dans cette chapelle. C'est que nous sentons, par la foi, en contact avec l'éternité. Il y a quelque chose qui transcende le visible. Il y a quelque chose de l'invisible auquel j'ai accès. Par la foi, posséder ce que l'on espère. Alors, on voit bien cette vie éternelle, et c'est toute la difficulté d'être chrétien, c'est que c'est à la fois vivre dans l'éternité, mais ne pas se désintéresser de ce monde. C'est, on voit bien cette tension-là qu'il y a dans le chrétien, ce qu'on appelle le déjà et le pas encore, c'est déjà le royaume de Dieu est présent, mais pas encore dans la plénitude. Déjà, nous sommes invités à vivre dans la foi, dans la vie éternelle, mais nous sommes aussi à nous impliquer dans ce monde et le rendre plus juste et fraternel. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça. Et je trouve que c'est ce que dit aussi la première lecture, donc, où le livre de la sagesse fait mémoire justement de la nuit de la délivrance pascale, donc ce passage de la mort à la vie. Et puis ils offrent des sacrifices, c'est-à-dire ils célèbrent, et en même temps ils partagent avec ceux qui sont à leur côté. C'est-à-dire qu'ils célèbrent le don de Dieu, c'est ce que nous faisons ici, nous rendons grâce, et à la fois nous sommes concernés par nos contemporains qui sont à nos côtés, particulièrement ceux qui sont dans la difficulté. Ils partagent aussi bien le meilleur que le pire, c'est ce que dit le livre de la sagesse. Et dans la tradition de l'Église, c'est très fort cette dimension de célébration et cette dimension de communion avec ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, vous savez que nous fêtons un grand saint, Saint Laurent, et que s'il y a des Laurents parmi vous, mais voilà, ils ont pris à leur intention. Et Saint Laurent, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, puisque c'est un diacre de l'Église des premiers siècles du christianisme. Et il était en charge de le diacre, c'était celui qui s'occupait de la charité de l'Église, donc qui soutenait les personnes les plus pauvres, etc., qui gérait la bourse commune. Et l'empereur romain, quand il a voulu mettre la main sur l'argent qu'il estimait énorme de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait, le diacre Laurent ? Il l'a distribué aux pauvres. Il a ramené tous les pauvres avec lui, et quand l'empereur romain lui a dit donne-moi les trésors de l'Église, et il désigne les pauvres, voilà le trésor de l'Église. Et ensuite il est mort martyr, etc. Donc Mais c'est parce qu'il y avait à la fois cette célébration, le sens de la transcendance, et à la fois le sens de se sentir concerné, de la solidarité avec ceux qui nous entourent. Vous voyez, donc, et on voit bien que le manque d'accueil de la transcendance dans nos vies fait que progressivement, on rentre dans un individualisme. C'est la société dans laquelle nous sommes. Et c'est en nous aussi. On ne va pas dire les autres, nous on est meilleurs ici que les autres. Non. Non, c'est qu'il y a un individualisme qui progressivement se fait jour parce que précisément, on ne prend plus conscience de la vie éternelle, qu'on aura à rendre des comptes. On ne prend plus conscience que, en fait, on a beaucoup reçu. Hein, à qui l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup, dit Jésus. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Justement, le fait de rendre grâce, le fait de vivre de foi, c'est voir la vie comme un don et non pas la vie comme un dû. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. C'est vraiment découvrir que c'est un cadeau, ce qui nous est fait. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une grâce. Quelles que soient les circonstances, plus ou moins heureuses, de circonstances de santé, circonstances de relationnelles, circonstances dans nos familles, bon voilà, professionnelles, chaque jour que nous vivons, quand nous vivons de foi, nous célébrons le don de Dieu. Nous célébrons la grâce d'être à ses côtés, de le découvrir près de nous. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Le croyant, il n'est pas forcément meilleure personne que ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas ça le sujet. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. C'est ça, voir la foi. On est accompagné. On est accompagné. Et le fait de cette présence du Seigneur à nos côtés, on découvre cette présence du Seigneur par des signes qui nous sont donnés, par sa parole, par les sacrements, par la communauté des croyants, etc., eh bien, ça fait que, progressivement, parce qu'on se sent accompagné, on veut s'impliquer dans ce monde, on sent qu'il y a une urgence, on sent que nous sommes, nous aussi, invités, parce que nous avons reçu tant et tant, invités à nous donner et à prendre notre part de responsabilité dans ce monde. Alors, frères et sœurs bien-aimés, je trouve cette parabole et les lectures qui font écho à cette parabole nous invitent à nous questionner où est-ce que nous en sommes de cette conviction déjà de la vie éternelle. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous que la vie éternelle nous attend? Est-ce que nous croyons que ce n'est pas uniquement la vie ne termine pas entre quatre planches? C'est pas notre manière de voir. Et prenez conscience que le fait de croire en la vie éternelle fait que on voit les choses autrement, parce que justement c'est une attitude de foi. Hein, par exemple, éduquer un enfant quand on croit en la vie éternelle, ben c'est qu'on dit qu'il terminera pas, sa vie ne terminera pas dans la fosse. C'est que on l'éduque au royaume de Dieu. On l'éduque au royaume de Dieu. Et donc on l'éduque à avoir foi dans ce royaume et à découvrir ce royaume de Dieu dans sa vie. Oui, c'est tout à fait autre chose. Alors on va demander au Seigneur de nous aider dans cette dimension-là, de reprendre conscience, c'est quelque chose que nous connaissons, mais de reprendre conscience de cette vie éternelle, parce que la logique du monde aussi nous rattrape, ça c'est sûr, hein, la logique du monde nous rattrape, cette logique d'individualisme, cette logique de carriérisme, mangeons, buvons et puis mourons. Voilà, ça aussi c'est en nous. Mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Quand on a découvert la présence du Seigneur dans sa vie, qu'on voit la vie comme un don et non pas comme un dû, eh bien tout change. Tout change. Le temps devient vraiment un lieu de rencontre avec le Seigneur. Eh bien, c'est ce qu'on va demander au Seigneur, cette grâce particulière de devenir les témoins de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.